commentaire. Marc Legault.
Pour certaines équipes, ce sont des examens physiques, mais pour d'autres équipes, Marc, aujourd'hui, c'est le tournoi de golf. C'est le cas des Sénateurs aujourd'hui. Ça commence, puis semblerait que Erik Karlsson va être là.
Ben, il était là, c'était hier, en fait.
En fait, c'était hier, le tournoi de golf, t'as raison.
Michel, et oui. Puis, il était là, Erik Karlsson. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas parlé à personne. Puis, déjà là, c'est là que tu vois que ça commence pas très bien. Ton meilleur joueur, ton capitaine, ton porte-parole, c'est ta première activité officielle de l'équipe. Et ben lui, il dit non, je vais vous parler demain aux médias là aujourd'hui, il n'y en a pas question. C'est là que tu vois qu'il y a un gros problème. Puis c'est là que tu vois pourquoi le Canadien de Montréal a réagi rapidement pour échanger Pacioretty, évidemment, avant les activités, avant ce fameux tournoi de golf. On l'a échangé dans la nuit avant le tournoi de golf.
Mais en même temps, Marc, là, si jamais il y a quelque chose qui se brasse comme c'est là, je peux comprendre que la première rencontre avec tu peux pas spéculer. Et c'est pour ça que je pense qu'ils veulent attendre. Il y a peut-être une confirmation d'un côté ou de l'autre qui va arriver dans les prochains jours pendant le camp d'entraînement. Et c'est pour ça qu'on veut protéger la situation. Pas, tu sais, tu veux pas envoyer un joueur commenter quelque chose, sachant très bien qu'on est sur le point peut-être de régler le dossier. T'sais?
Peut-être, Michel, sauf que le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il va parler aux médias, Erik Karlsson. Donc, évidemment, à moins qu'on l'échange là, entre ce matin et puis midi.
Ou qu'on lui accorde un contrat.
Ou qu'on lui accorde un contrat, puis éventuellement, on va l'échanger, ou je sais pas. Sauf que, je te dis pas que c'était pas bon qu'il parle pas aux médias. Tout ce que je te dis, c'est que déjà là, ça commence de façon bizarre, ta première saison. C'est supposé être positif, et puis, ça l'était en général, évidemment. C'est un retour de tout le monde, donc il y en a qui ont des belles histoires, puis tout ça, mais ça va demeurer, le temps aussi longtemps que ce dossier-là sera pas réglé, ça va demeurer l'histoire du côté des Sénateurs d'Ottawa. Puis hier, tu sais, ce qui est drôle, habituellement, quand t'es une équipe de sport, Michel, tu veux avoir de la couverture positive à de nombreuses occasions. Tu veux pas condenser ça en une seule journée. Puis hier, les Sénateurs d'Ottawa ont fait des rencontres médiatiques avec les médias de toute la région au même moment où il y avait le tournoi de golf. Habituellement, là, tu aurais pu céduler ça à quelques jours d'espace. Pourquoi? Pour être dans les nouvelles, plus longtemps, pour pouvoir parler de ton équipe plus longtemps. Mais là, on a fait ça toute la même journée. Donc, tu as les joueurs qui arrivent d'un côté, puis de l'autre côté, tu as les dirigeants de l'équipe qui rencontrent les différents médias. Puis dans la même journée, là, on va parler de tout ça. Je trouve que le moment a été choisi bizarrement. Je pense qu'on a fait ça justement pour peut-être enlever l'attention un peu de l'arrivée des joueurs, parce qu'on le sait, l'arrivée des joueurs, on va parler de Erik Karlsson, puis finalement, il y a aussi la vidéo de Melnick qui a fait beaucoup jaser. On a parlé à Borowiecki là-dessus. Tu sais, la stratégie, c'était pas la meilleure du côté des Sénateurs. Malheureusement, on nous a habitués à ça souvent au cours des dernières années.
Je me permets un petit commentaire, Marc. Tu sais, Monsieur Melnick, il a certainement envie que le spotlight soit sur lui. Il a toujours envie de prendre la pôle, d'expliquer les choses. On dirait qu'il a besoin de se faire voir, puis de qu'on comprenne très bien que c'est lui qui est le patron, mettons. Mm-hmm. Mais je pense que la grosse carence administrative des Sénateurs, c'est pas le vouloir des gens de marketing, c'est pas les idées, c'est pas ça. La grosse carence, à mon avis, c'est les communications. Qu'est-ce qui est bon stratégiquement au niveau des communications pour un club de la Ligue nationale et qu'est-ce qui n'est pas bon? Tu sais, Donald Beauchamp, là, on chialait beaucoup à Montréal, les médias, mais Donald Beauchamp, il a protégé l'organisation du Canadien de Montréal pendant des années. De quoi? De ces bévues-là que fait M. Melnick. Comprends-tu? Alors, c'est ça que ça prend à Ottawa. Ça prend quelqu'un qui a les compétences pour expliquer à Eugene Melnick qu'à chaque fois qu'il frappe le mur, on le prévient d'avance. Tu vas frapper le mur si tu fais ça. Et à un moment donné, le monsieur, à force de perdre de l'argent et d'avoir l'air fou des médias, il va peut-être vouloir écouter une personne compétente qui va lui dire comment agir, quoi faire et quoi ne pas faire.
Michel, c'est ce qu'on disait hier. Tu disais que c'était le pire porte-parole que tu pouvais envoyer comme ça devant les gens pour parler de la nouvelle saison des Sénateurs. Le seul problème, je suis pas certain qu'il y a eu des gens incompétents à Ottawa au cours des dernières années. Je pense que ces gens-là ne sont tout simplement pas capables de faire le travail parce qu'en bout de ligne, Eugene Melnick, peu importe ce que tu lui dis, même si tu lui dis « tu t'en vas à l'abattoir, c'est pas bon ce que tu fais là », je pense que ce gars-là n'en fait qu'à sa tête. Et tu le dis, c'est le boss, c'est le propriétaire et j'ai l'impression que son dernier argument, c'est moi qui signe les chèques de paye, je peux bien faire ce que je veux avec cette équipe-là. Parce que année après année, année, il n'apprend pas, c'est toujours la même rengaine. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont bien tenté de le contrôler, il y a des gens qui ont bien tenté de faire en sorte que le message soit peut-être plus positif, mais en bout de ligne, c'est Eugène Melnyk qui décide, puis ça donne le résultat que ça donne. Puis ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a plus personne qui, vraiment digne de ce nom qui va vouloir travailler pour ce gars-là tant et aussi longtemps qu'il va être là.
As-tu entendu parler de Guy Boucher, toi?
Non, et c'est là que je te dis que cette organisation-là en a des problèmes, parce que je t'explique le contexte. Il y a deux ans, Guy Boucher arrive, connaît une saison extraordinaire. Ça va très bien. C'est la meilleure chose qui est jamais arrivée au sénateur d'Ottawa. L'an passé, c'était le contraire. Il était contesté. Ça n'a pas bien été. Et Michel, tu sais comment ça marche dans une organisation de sport? Le DG et l'entraîneur se rencontrent à chaque jour pour évaluer les effectifs en place. Hein. On parle des joueurs, on parle de tout le monde. Ils sont toujours en mode évaluation pour tenter d'améliorer l'équipe. Et là, tu arrives à la fin de l'année, puis tu as Pierre Dorion, ça fait 8 mois qu'il voit Guy Boucher à tous les jours, puis qu'il nous dit « Ben là, je vais prendre un mois et demi, parce qu'il faut que j'évalue Guy Boucher. Je veux savoir s'il a bien fait les choses. Je veux savoir s'il va revenir. » Puis ça, c'est de la foutaise totalement. Pendant ce temps-là, on a tenté de dénicher un autre entraîneur. On n'a pas été capable. Ce qui fait qu'un mois et demi plus tard, Pierre Dorion dit « Ouais, là, j'ai bien analysé ça, là, puis Guy Boucher, ben il va revenir en poste. » Normalement, dans toute organisation, qu'il n'y a pas de problème, là. Que tout va bien, c'est ça l'histoire au camp d'entraînement. Ton coach, ça t'a pris un mois et demi de temps avant de le renommer, de le remettre en fonction. C'est ça qu'on aurait dû parler hier aux joueurs. Êtes-vous surpris que Guy Boucher revienne? Avez-vous été surpris que ça prenne un mois et demi avant qu'on passe au processus d'évaluation puis tout ça? Mais non, on n'en a même pas parlé hier, Michel. C'était même pas une nouvelle. On ne parle même pas de Guy Boucher. C'est là que tu vois cette organisation-là tellement d'autres problèmes à discuter, puis à parler, puis ainsi de suite, que le fait que ton entraîneur, ça t'a pris un mois et demi avant de dire qu'il revienne en poste, c'est même pas une histoire, c'est tout à fait normal. Je pense que... En tout cas, c'est
encore une fois, un problème de communication,
ben oui.
Quand Pierre Dorion est allé dire en spectacle, il s'est donné en spectacle en conférence de presse, puis il a dit en anglais, « Je veux plus jamais, jamais! » entendre que les joueurs vont pas pratiquer. Jamais! Quand il a fait ça, là, c'est un manque de respect en la personne de Guy Boucher. C'est un manque de coaching en communication. Un, hier, que Guy Boucher ne soit pas interviewé, puis qu'on joue aux éditoriaux ce matin dans le journal, puis qu'on n'ait pas la version de Guy Boucher aujourd'hui, c'est la même chose. Je sais que ça va se faire au cours des prochaines heures. On verra bien comment ça va se passer.
Ça va être autant, Michel.
Oui, effectivement. Hey, Marc, on termine avec Humboldt hier. J'ai regardé ça, moi. Sur la télé nationale, hier, sur le site web de TSN également, on a présenté le match des Broncos. C'était le match numéro 1 de la saison après la tragédie qui a frappé ce club-là dans la Ligue junior de la Saskatchewan.
Gros malaise pour moi, Michel. Gros, gros malaise. Je me sentais comme un voyeur et je me sentais comme une personne qui n'était pas à sa place. Je n'aurais pas dû voir ça. Ça n'aurait pas dû être présenté. J'ai été totalement surpris que TSN présente ça à la grandeur du pays. Je comprends qu'on doit souligner. C'est normal qu'on en parle dans les bulletins de nouvelles. Mais de faire un show 2 heures avant le match et de présenter le match... Moi, j'avais un gros malaise.
Non, mais faut pas le prendre méchamment, Marc. Je pense qu'ils veulent tellement aider cette communauté-là à se relever de cette tragédie-là que les médias veulent tout donner ce qu'ils peuvent aux gens de Humboldt. Je pense que c'est de même qu'il faut le prendre plutôt que de considérer les médias comme étant des voyeurs qui exploitent la mort pour faire du capital sur le dos des téléspectateurs.
Ben moi c'est un peu comme ça. Je trouve qu'on en écoute, Michel, ça a été souligné ça. Ça fait longtemps que c'est souligné. Il y a eu un paquet d'événements là-dessus. Puis je sais que c'était le premier match de la saison. Comme je te dis, on aurait pu le mentionner, on aurait pu envoyer des journalistes là. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'on en a mis un peu trop. C'est mon opinion personnelle. Je suis peut-être le seul à penser comme ça, Michel. Mais moi, honnêtement, lorsque j'ai vu... Et je me suis dit, je vais l'écouter parce que je m'attendais à quelque chose. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Mais lorsqu'on on a demandé la minute de silence et j'ai vu un des joueurs, des survivants de l'an passé, qui était sur le tapis rouge, s'effondrer à terre, au sol, à genoux et se mettre à pleurer, j'ai eu un malaise. Je n'étais pas bien. J'aurais aimé, comme je t'ai dit... Ils devaient souligner ça, c'est correct, mais j'aurais aimé qu'ils soulignent ensemble leur petite famille, leur petit village, leur petite région. Je me sentais pas à ma place, je me sentais un voyeur quand je regardais ça hier.
Bon point, Marc. Merci beaucoup. On se retrouve demain matin pour la dernière de la semaine.
Salut, Michel.
Bonne journée. Hier, pour les gens qui ont vu ça, effectivement, c'était très, très touchant. On était ébranlés. Humboldt a perdu son match ouverture. Imaginez-vous, là, quand ils vont prendre la route pour la première fois à bord de l'autobus, comment ça va se passer. Et l'autre problème qu'on a, on a récolté 20 millions pour la communauté là-bas. À qui on le donne? Qu'est-ce qu'on fait avec le 20 millions de dollars? Et tout un problème. Restez là, Françoise Boivin s'en vient après les nouvelles.